Radio Okapi.
Le journal grâce à Mzati Masanzi.
Clôture hier à Johannesburg en Afrique du Sud du 15e sommet des BRICS composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Ces pays décident de renforcer leur coopération en matière de sécurité alimentaire. Les résultats obtenus jusque-là dans les opérations conjointes menées par les armées congolaises et ougandaises contre les ADF dans la région de Beni et de l'Ituri sont satisfaisants. Déclaration du porte-parole de l'armée ougandaise UPDF que vous entendrez dans ce journal. Emmanuel Ngaruye Muhozi, député provincial de Rutshuru au Nord Kivu, est notre invité. Il exprime ses craintes sur l'effectivité de la rentrée scolaire prévue le lundi 4 septembre dans ces territoires occupés par les rebelles du M23. Mesdames et messieurs, bonjour. Les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, renforceront la coopération en matière de sécurité alimentaire entre les pays BRICS et au-delà. Ils affirment également leur soutien indirect à la Russie en condamnant les sanctions internationales contre ces pays. Ces résolutions ont été adoptées hier à la clôture du 15e sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Les BRICS sont également revenus sur la guerre en Ukraine. Le groupe note avec appréciation l'initiative africaine visant à résoudre le conflit ukrainien. Et pour son extension, le groupe accepte 6 nouveaux membres. Il s'agit de l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie. Pour sa part, la République démocratique du Congo, représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, a pris part à ce sommet comme invité. D'autres détails avec vous, Alain Rung.
Les BRICS ont plaidé pour la réforme de l'ONU et ont appelé à une représentation accrue des pays en développement au Conseil de sécurité de l'ONU. Se positionnant sur les conflits que connaît le monde, le groupe politico-économique affirme son engagement pour la résolution pacifique des conflits au Niger, en Libye et au Soudan sur la base de la médiation de l'ONU et de l'Union africaine. Ils soutiennent également les aspirations du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud à jouer un rôle plus important au Conseil de sécurité de l'ONU et s'opposent aux barrières commerciales y compris celles imposées par les pays développés sous prétexte de lutter contre le changement climatique. Et enfin, les dirigeants des BRICS soutiennent l'utilisation des monnaies nationales dans le commerce international et les transactions financières entre les pays des BRICS. Il faut dire que lors de ce sommet, les pays des BRICS n'ont pas pris la décision de créer une monnaie unique, une décision attendue pour faire barrage à l'hégémonie du dollar américain.
Je le disais tantôt, le porte-parole de l'armée ougandaise UPDF s'est dit satisfait des résultats obtenus jusque-là dans les opérations conjointes contre les ADF dans la région de Beni et de l'Ituri. Le général-major Félix Koulaïgué note entre autres la libération des nombreux enfants qui étaient pris en otage par les ADF, mais aussi le démantèlement du commandement ainsi que le contrôle de cette région par ces terroristes. Déclaration faite à Radio Okapi mardi dernier à Kampala lors d'une cérémonie de présentation des otages et ex-combattants qui se sont rendus. Pour Félix Koulaïgué, même si les opérations s'arrêtent, cette collaboration doit demeurer tant que les ADF constitueront une menace dans la région. Il est dit à Sifa Maguru.
Grâce à cette collaboration, nous avons obtenu de bons résultats. Avant-hier, nous avons tué un grand commandant des ADF appelé Mulalo. Les autres ont fouillé en brousse. D'autres ont été libérés. On va vous le montrer. L'essentiel comme objectif était de démanteler le commandement et le contrôle des ADF. À ce niveau, ces deux armées ont atteint leur objectif. Deuxièmement, comme vous avez entendu les enfants dire qu'ils étaient dispersés, ces opérations ont permis aux enfants de quitter la brousse et empêcher les ADF de contrôler parce qu'ils sont dispersés. Troisièmement, ils ont fui très loin vers Mambasa, où ils dérangeaient vers l'ouest des montagnes de Rwenzori. Les ADF avaient déjà pris possession de leurs champs, chassé les enfants de l'école et fermé les églises. Maintenant, toutes ces activités ont ouvert. Les élèves sont encore en vacances. Nous remercions beaucoup les militaires pour avoir libéré ces enfants. Les commerces ont repris. Certains axes jadis fermés ont réouvert. Tout ça, ce sont des résultats.
Par la même occasion, il annonce la tenue d'une nouvelle session d'évaluation de ses opérations à Kampala du 25 au 30 août entre les experts et les commandants des opérations conjointes. Les chefs d'état-major des deux pays vont également prendre part à cette réunion qui sera clôturée par les ministres des Défenses respectifs. Pour rappel, cette évaluation va concerner la troisième phase des opérations conjointes menées sur l'axe Boga, Tchabi et Kainama, alors que la deuxième phase était concentrée sur les axes sud et centre, notamment Mayangose et Mwalika. Cependant, la quatrième phase, qui va débuter incessamment, prendra l'axe Mambasa, Ndalia, Ido, Komanda, Otomaber, indique nos sources. Pendant ce temps, une jeune fille d'une quinzaine d'années a regagné sa famille mercredi 23 août 2023 après près de 8 ans de captivité des terroristes des ADF. C'est au village Nkukute, district de Luengo, environ 80 km au nord de Mbarara, sur l'axe qui mène vers Kisoro. C'est dans une joie immense que toute sa famille, oncles, tantes et grand-mères ont accueilli la jeune Mariam qui était très émue de revoir sa famille. Plusieurs autorités administratives et coutumières ont pris part à cette cérémonie de réinsertion familiale facilitée par Bricks Way Foundation, une organisation qui s'implique dans la sensibilisation des combattants ADF et leurs dépendants à la reddition. Depuis Kampala, Sifa Maguru nous en dit plus.
Pour la famille de Mariam, ce retour est un miracle car tout espoir de la revoir était définitivement révolu, d'autant plus que cette même famille avait perdu deux autres enfants kidnappés par les ADF au Nord Kivu. Cette jeune fille mineure vient de commencer une nouvelle vie et nous lui souhaitons de vivre plus de 100 ans à lâcher son oncle paternel. Les autorités locales, notamment les chefs des districts, celui de la commission d'amnistie, équivalent du DDR en Ouganda, ont accueilli officiellement cet enfant en lui remettant un certificat d'amnistie. Ces derniers ont également promis de veiller sur elle et assurer sa scolarité. Pour la petite histoire, cette jeune fille, Mariam, a été recrutée par ruse à Kampala en compagnie des autres enfants en bas âge alors qu'elle était en vacances chez une membre de sa famille. Notez que des rendus Congolais seront également rapatriés en RDC selon les procédures standards signées entre les ministères de défense de l'Ouganda et de la RDC. Depuis Kampala, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans la province du Kwilu, aucune candidature n'a été déposée pour l'élection des conseillers communaux pour la circonscription électorale de Bandundouville, chef-lieu de la province, depuis le début en date du 3 août de l'opération de réception et traitement des candidatures, cela jusqu'au 22 août. Ces statistiques ont été données mercredi par le secrétaire exécutif provincial de la centrale électorale au Kwilu. Jean-Robert Mouyense invite les partis et regroupements politiques à se mobiliser pour déposer les candidatures pour cette catégorie de l'élection. Irène Mboma pour plus de détails.
Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kwilu, du 3 au 22 août 2023, sur l'ensemble de la province, au moins 15 candidatures seulement sont déposées dans les BRTC pour l'élection des conseillers communaux, dont 13 masculines et 2 féminines. Et parmi ces 15 candidatures, aucune n'est déposée pour les comptes de la circonscription électorale de la ville de Bandundu, qui compte au total 21 sièges, a déclaré Jean-Robert Mouyens. Il en appelle à la diligence des acteurs politiques.
La ville de Bandundu compte 21 sièges. Nous avons 3 communes. Chacune de ces communes aura 7 sièges à l'élection des conseillers communaux. Il va falloir que les acteurs politiques puissent faire diligence pour que les candidatures qui vont être déposées puissent être nombreuses. Parce que pour Bandundu-Ville, il n'y avait aucun dossier réceptionné. Et c'est ici l'occasion que nous lançons à l'intention des partis et regroupements politiques. Donc nous aimerions qu'il y ait beaucoup plus de candidatures à l'élection des conseillers communaux.
D'après ces mêmes statistiques, notez qu'au total 112 formulaires ont été retirés pour l'élection des conseillers communaux au Kwilu. Cependant, en ce qui concerne la députation provinciale, au total 514 candidatures ont été déposées, dont 128 féminines. Irène Boma, Bandundu-Ville, Radio Okapi.
Et puis, la directrice générale du Fonds des promotions culturelles, la chanteuse congolaise Barbara Kanam, a échangé avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Christian Bossembe, hier jeudi, au cabinet de ces derniers. Les échanges ont tourné essentiellement autour des taxes que les médias, en tant qu'assujettis du FPC, doivent payer pour la promotion de la culture congolaise. Il est également question de voir comment accompagner les FPC dans sa campagne de sensibilisation et de vulgarisation dans les médias. Le président du CESAC déclare que faire Faire asseoir les FPC sur de bonnes bases constitue une priorité pour le CESAC. À son tour, la directrice générale du Fonds de promotion culturelle, Barbara Kanam, parle de l'importance de sa structure et fait le point sur ses échanges avec Christian Bossembe. Elle est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous savons que le Fonds de promotion culturelle, justement, a besoin de moyens pour pouvoir accomplir ses missions, ses multiples missions, qui sont d'accompagner, de soutenir, de financer les activités culturelles sur toute l'étendue de la RDC. C'est un grand défi et donc nous sommes venus solliciter son application en tant qu'organe de contrôle afin que nos redevables puissent s'acquitter de leurs redevances qui sont très importantes pour le Fonds de promotion culturelle. Nous avons parlé de plusieurs choses et pour être beaucoup plus pratique, nous avons justement émis le souhait de pouvoir avoir les portes ouvertes parce que les gens ne connaissent pas forcément le FPC, donc il y a une pédagogie à faire et une sensibilisation à faire auprès de nos assujettis pour qu'ils comprennent la nécessité de payer. Ils ne payent pas seulement parce qu'il faut payer, mais parce que cela va contribuer justement à l'éclosion de la culture qui est un des axes importants du président de la République, du chef de l'État, qui veut que la culture, justement, puisse aller de l'avant.
Radio Okapi poursuit sa série des dossiers sur l'industrie musicale en RDC. Hier, nous avons fait un survol historique vers les années 40 et parlé de la situation d'aujourd'hui. Après avoir répondu à la question de savoir si l'industrie musicale existe réellement en RDC, aujourd'hui, nous allons voir comment l'industrie musicale fonctionne dans deux des pays d'Afrique, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et c'est avec Jean-Marc Ematoua qui m'ont fait l'aile.
L'industrie musicale nigériane génère beaucoup d'argent et pesait 39 millions de dollars en 2016, une hausse de 9% par rapport à l'année précédente 2015, 36 millions de dollars. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter et qui ont convaincu des maisons de disques internationales comme Universal ou Sony d'installer des bureaux à Lagos. Le secteur musical est aussi une importante source d'emploi pour des centaines de milliers de Nigériens. Toujours en Afrique, l'industrie musicale sud-africaine était évaluée à plus de 2 milliards de rentes, soit 113 millions de dollars en 2020. C'est selon un rapport du collectif d'entreprises musicales panafricaines Sound of the South. Les sources traditionnelles des revenus des publications, autres que les streaming, ont représenté 75% de tous les revenus générés au cours de cette année. L'industrie musicale en Afrique du Sud est bien organisée et génère des revenus supérieurs à ceux des autres marchés africains de la musique. L'Europe est l'un des premiers marchés d'export pour l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud est le premier marché subsaharien d'export pour l'Europe.
Par ailleurs, au Congo central, poursuite hier jeudi de la campagne dénommée Tolérance Zéro. Cette activité a été lancée depuis mercredi à Kasangoulou par les gouverneurs des provinces. Cette campagne, dont la première phase consiste à la sensibilisation des routiers sur les mesures des renforcements de la sécurité routière, vise à mettre fin aux multiples infractions du code de la route qui causent de nombreux accidents, souvent mortels, sur la route nationale numéro 1. Guy Bandundungidi rappelle aux chauffeurs qu'après cette phase, la police des circulations routières ne va plus tolérer l'incivisme. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
C'est au moins tous les jours qu'il y a minimum 5 morts sur la nationale numéro 1. Et on ne parle pas des dégâts matériels, on ne parle pas des blessés avec handicap irréversible. Depuis hier, on ne fait que ça. De Kasangoulou jusqu'à ce matin, nous étions encore sur la route en train de réglementer les excès de vitesse, les conduites en état d'ébriété, les véhicules qui sont hors normes et qui ne respectent pas le contrôle technique. On peut vous citer sur chacun des véhicules qu'on a vu au moins 5 infractions. Donc désormais, la circulation sur la nationale numéro 1, ça va pas être comme si les gens circulent dans leur salon ou dans leur chambre à coucher. On va respecter les normes et c'est à nous de donner l'exemple. Je profite donc de cette occasion pour que de manière pédagogique, nous rappelions que la police, par la PCR, va faire son travail. Si vous êtes pris en excès de vitesse, en conduite en état d'ébriété, avec un véhicule qui n'est pas dans les normes, système de freinage, feu de position et les documents de bord qui ne sont pas conformes, vous serez confronté à la loi.
Sud Kivu, l'Organisation mondiale de la santé OMS veille à la qualité des soins dans les structures afin de garantir la santé à la population. C'est ce qui justifie les débuts mercredi dernier des travaux de construction d'une unité de triage des malades aux cliniques de l'Université officielle de Bukavu, un ouvrage initié par l'OMS Bukavu avec le financement de la Banque mondiale. Emmanuel Elamejua Kabidi.
L'unité de triage des malades aux cliniques universitaires de l'IOB est une initiative de l'OMS sur financement de la Banque mondiale de l'ordre de 77 000 dollars américains. Cette unité de triage des malades contribuera à la prévention et contrôle des infections. Docteur Constantin Makakala de l'OMS Bukavu.
L'Organisation mondiale de la santé travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de la République. Alors, dans sa mission pour garantir la santé à la population et veiller à la qualité des soins dans les structures, la Banque mondiale a financé la construction de cette unité de triage pour améliorer la prévention et le contrôle des infections au niveau des structures sanitaires. Cela va empêcher que des maladies infectieuses soient propagées à partir des structures sanitaires.
Le professeur Charles Kaindo, recteur de l'Université officielle de Bukavu, reconnaît l'importance de l'unité de triage des malades dans son institution.
Nous sommes ravis de la confiance que l'OMS place en nous. Ça, c'est une priorité parce que ça permet de gagner du temps, mais ça aussi, ça protège les malades, mais aussi les staffs, parce qu'il faut bien prévenir. Les malades arrivent, vous ne savez pas ce qu'ils ont. Autant mieux d'abord trier, savoir ce qu'ils ont. Ça facilite le travail et c'est d'une très, très grande performance.
Emmanuel Lamijoa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Actualité internationale.
La junte au pouvoir au Niger autorise le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur le territoire nigérien en cas d'attaque, annonce ce jeudi les trois pays dans un communiqué commun, laissant suggérer que les putschistes entendent résister aux pressions extérieures de rétablir l'ordre constitutionnel. Cette annonce intervient alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, menace d'intervenir militairement au Niger pour y rétablir l'ordre constitutionnel après que l'armée a renversé fin juillet le président démocratique pratiquement élu, Mohamed Bazoum. Les pays rappellent que le Mali et le Burkina Faso considéreraient toute intervention militaire au Niger comme une déclaration de guerre à leur encontre.
L'invité.
Il s'agit de Emmanuel Ngaruye Muhozi, député provincial de Rutshuru au Nord Kivu. Il exprime ses craintes sur l'effectivité de la rentrée scolaire prévue le lundi 4 septembre prochain dans ces territoires occupés par les rebelles du M23. Il appelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour éviter une troisième année blanche aux élèves du territoire de Rutshuru. Emmanuel Ngaruye Muhozi s'entretient avec Alain Rung.
Bonjour, monsieur le député Emmanuel Ngaruye. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. Comment se présente la situation des écoles, des enseignants, des élèves dans les entités occupées par le M23?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est 4 septembre 2023, selon les communiqués du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il y a rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, pour notre territoire de Rutshuru, je n'ai pas vu dans les communiqués du ministre une exception. Et donc, je crois que le territoire de Rutshuru est aussi concerné par cette rentrée. Malheureusement, vous le savez, le territoire de Rutshuru est aujourd'hui sous occupation de l'armée rwandaise et ougandaise, sous couvert du M23. Et c'est depuis donc 2 ans qu'il n'y a pas d'activité scolaire, il n'y a pas d'enseignement dans cette entité. D'ici le 4 septembre, s'il y a rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République du Congo et qu'il n'y a pas rentrée scolaire dans cette entité, ça sera la troisième année scolaire blanche. Plusieurs écoles ont été saccagées et vous le savez, peut-être il y a plusieurs écoles qui avaient été touchées par des obus. Les enseignants, pour la plupart, ils ont fui leur milieu naturel, le territoire de Rutshuru. La population, les parents ont fui. Certains sont en Ouganda, certains sont aux alentours de Goma et une partie est restée en territoire de Rutshuru. Et curieusement, il n'y a aucune communication claire de notre ministre, le ministre d'enseignement primaire, secondaire, technique. Et pourtant, c'est lui le porte-parole des enseignants et des élèves dans le gouvernement. Mais le communiqué qu'il fait toujours ne fait pas allusion à cette entité et ça nous met dans une grande confusion.
Plusieurs sources affirment que le M23 serait aussi en train d'appeler les populations, les élèves à la rentrée scolaire pour le 4 septembre. Est-ce que vous le confirmez?
Exactement. Les agresseurs font plusieurs communiqués. La fois passée, ils ont obligé tous les enseignants qui se retrouvent dans leur milieu de pouvoir se présenter dans une réunion. Il n'y a pas encore une semaine, ils ont fait un autre communiqué pour demander à tous les élèves et tous les parents, tous les enseignants de pouvoir s'apprêter pour la rentrée scolaire de ce 4 septembre, un peu pour mettre en exécution le communiqué du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et cela intrigue notre population qui se dit, finalement, on va étudier comment, aujourd'hui, si vous allez dans ces humiliés. Les enseignants sont soumis aux travaux forcés par ces agresseurs. Les enseignants subissent un traitement vraiment insupportable et la plupart continuent à se dire on ne peut pas quand même enseigner dans ces conditions. Il y en a même qui fuient aujourd'hui parce qu'ils trouvent que le traitement est insupportable. Les enseignants de l'école, par exemple, secondaire, ils doivent avoir quelque chose des parents, mais ces parents-là qui vivent aujourd'hui une situation de pauvreté extrême, ils vont se comporter comment? C'est vraiment une situation intenable et moi je crois que le gouvernement devait clarifier la situation. Le ministre d'enseignement primaire et secondaire devait être le vrai interlocuteur au sein du gouvernement pour que le gouvernement prenne des mesures, soit délibérer l'entité, soit collaborer avec ses partenaires traditionnels, l'UNICEF, l'UNESCO et d'autres partenaires, pour qu'ils se mettent afin que l'éducation puisse commencer en attendant que ces entités soient libérées. Parce que même en 2013, même s'il y avait la rébellion du M23 première version, les élèves étudiaient et ça n'a pas empêché que le gouvernement vienne libérer les entités, même si les enfants étaient en train d'étudier.
Plusieurs exactions attribuées au M23 ont été signalées et c'est jeudi, plusieurs informations qui circulent dans les réseaux sociaux font état du pillage de l'hôpital de Rutshuru.
Exactement, il n'y a pas que l'hôpital. L'hôpital a été pillé cette nuit. L'hôpital et le bureau central de la zone de santé de Rutshuru ont été pillés. La partie pharmacie et la partie caisse ont été sérieusement pillés. Hier, la journée, c'était le tour du CTJ, donc le conseil territorial de la jeunesse, qui a été aussi pillé. Ces installations ont été pillées, vandalisées. Et donc, le territoire de Rutshuru, en fait, c'est un calvaire que les gens vivent. Et malheureusement, le gouvernement qui avait un certain élan de pouvoir libérer les entités, en un certain moment, il a croisé les bras. Les militaires sont dans ces C'est le fait, il faut le dire. Chaque jour, il y a des alertes que les renforts de l'armée rwandaise et ougandaise sont en train d'être déployés chaque jour pour pouvoir continuer à envahir Rutshuru et Masisi. Et nous pensons que le gouvernement devait de toute façon se réveiller et ne pas tomber dans les pièges des ennemis. Les populations vivent dans une confusion totale.
Monsieur le député Emmanuel Ngarouye Mouhozi, je vous remercie.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, coordonné et supervisé par Alain Rung-Mouchins et mis en onde par Alain Goy. Vous pouvez les réécouter sur www.radiocapi.net. Merci et bonne suite de la matinale avec Jean-Marc Matoaki, Mofelele, Dijano.